Mary James, un portrait de femme, chapitre 24. Il eût été certainement difficile de voir le mal qui pouvait résulter pour elle de la visite qu'elle fit bientôt à la colline de Monsieur Osmond. On n'eût rien imaginé de plus exquis que cette heure, que cette douce après-midi du plein épanouissement d'un printemps toscan. Les deux amis, sortis par la porte romaine, passèrent sous l'énorme couronnement uni qui surmonte la belle arche nette et accuse magnifiquement sa nudité, et suivirent des ruelles bordées de hauts murs où de riches vergers laissaient pendre leurs fleurs et tomber leurs parfums. Sur la petite piazza campagnarde et biscornue, le long mur brun de la villa occupée en partie par M. Osmond constituait le trait principal, ou du moins le plus marquant. Elles trouvèrent une cour large et haute, dont une ombre claire baignait le sol. Le soleil éclairait les minces colonnettes d'une galerie à légères arcades, toutes garnies de plantes fleuries. On sentait dans cet endroit quelque chose de grave et de fort, qui devait exiger de ceux qui y avaient pénétré un déploiement d'énergie pour en sortir. Isabelle ne songeait pas encore à sortir, mais seulement à avancer. Monsieur Osmond vint à sa rencontre dans le vestibule glacé. Il le restait encore en mai, et l'introduisit avec son amie dans la pièce que nous connaissons déjà. Madame Merle les précédait, et pendant qu'Isabelle s'attardait un peu à causer avec son hôte, elle s'avança familièrement vers deux personnes assises dans le salon. L'une était la petite Pensée, à qui elle donna un baiser, l'autre une dame que Monsieur Osmond présenta à Isabelle comme sa sœur, la comtesse Gemini. « Et voici ma petite fille qui vient de sortir du couvent, » acheva-t-il. Pensée portait une robe blanche unie et ses cheveux blonds étaient serrés dans un filet. Ses souliers bas se fixaient à ses chevilles par des lanières de sandales. Elle fit à Isabelle une petite révérence de couvent et vint lui tendre le front. La comtesse Gemini se contenta d'un petit signe de tête, sans se lever, et Isabelle vit qu'elle suivait de très près les modes mondaines. Elle était brune et anguleuse, sans aucune beauté, et ses traits faisaient penser à un oiseau des tropiques. Elle avait un nez recourbé en bec, des petits yeux très mobiles, une bouche et un menton fort en retrait. Cependant, grâce à ce qu'il exprimait sans cesse d'enthousiasme et d'étonnement, d'horreur et de joie, son visage n'avait rien d'inhumain, et pour ce qui avait trait à sa mise, il était clair qu'elle s'y entendait et savait tirer de ses rares attraits tout le parti possible. Sa robe, étoffée et délicate, resplendissante d'élégance, faisait l'effet d'un plumage luisant et ses attitudes étaient aussi légères et aussi imprévues que celles d'un animal fait pour percher sur des branches. Elle avait beaucoup d'affectation et Isabelle la rangea du premier coup parmi les plus maniérées des femmes. Elle se souvint que Ralph ne la tenait pas pour une connaissance à cultiver, mais ne s'aperçut point qu'à première vue, la comtesse Gemini parut révéler de profondeurs insoupçonnées. Ses démonstrations faisaient perpétuellement songer à une demande perpétuelle de trêve, la soie volant ébouriffée de sa robe lui servait de drapeau blanc. « Vous serez convaincu de la joie que j'éprouve à vous voir quand vous saurez que c'est la certitude de vous rencontrer qui m'a seule amenée ici. Je ne viens pas voir mon frère, je le prie de descendre chez moi. Sa colline est impossible, je ne sais ce qu'il y retient. Réellement, Osmond, tu me démoliras mes chevaux un jour ou l'autre, et si tu les abîmes, il faudra m'en donner une autre paire. Je les entendais souffler en montant, je te l'affirme. C'est très désagréable d'entendre souffler ses chevaux quand on est en voiture. On croirait que ce sont de méchants trosses. » Et pourtant j'ai toujours eu de beaux chevaux, et si j'ai manqué de pas mal de luxe, je me suis toujours arrangée à garder celui-là. Mon mari, qui ne sait pas grand-chose, se connaît du moins en chevaux. C'est assez rare chez les Italiens, mais mon mari choisit, selon ses médiocres lumières, tout ce qui est anglais. Mes chevaux sont anglais, et il serait d'autant plus dommage de les faire abîmer. Il faut vous dire, poursuivit-elle en s'adressant directement à Isabelle, qu'Osmond ne m'invite pas souvent. Il n'aime pas beaucoup m'avoir chez lui. C'est tout à fait de mon propre chef que je suis venue aujourd'hui. J'aime à faire de nouvelles connaissances et je suis sûre que vous êtes une vraie nouveauté. Ne restez pas assise là, ce fauteuil n'est pas du tout ce qu'on croirait. Il y a quelques très bons sièges ici, bien qu'il y ait aussi des horreurs. Ces remarques étaient lancées à petits coups, avec force trémolose et roulade, et sur un ton qui éveillait l'idée de bon anglais, ou plutôt de bon américain dans l'adversité. « Moi, je n'aime pas t'avoir ici, ma chère, » protesta son frère. « Tu es inappréciable. » « Je ne vois pas du tout d'horreur, » déclara Isabelle en regardant autour d'elle. « Tout ici me paraît beau et précieux. »« J'ai quelques jolies pièces, » concéda Monsieur Osmond, « ou tout au moins je n'en ai pas vraiment de mauvaises, mais je ne possède pas tout ce que j'aurais voulu. » Il se tenait un peu gauchement, souriant et regardant autour de lui. Son attitude marquait un bizarre mélange de détachement et d'embarras. Il semblait tenir pour acquis que les hautes valeurs méritaient seules d'être considérées. Isabelle en conclut que la simplicité parfaite n'était pas l'emblème de cette famille. Même la jeune pensionnaire, qui dans sa petite robe toute unie, avec sa mine docile et ses mains jointes sur les genoux, semblait prête à prendre part à sa première communion, même ce diminutif de M. Osmonde présentait une sorte de perfection qui n'était pas tout à fait naturelle. « Il vous aurait fallu quelques pièces des Uffizi et du Palais Pitti, n'est-ce pas ?» dit Madame Merle. « Pauvre Osmonde, avec ses vieux rideaux et ses crucifix !» éclata la comtesse Gemini. Elle affectait de ne donner à son frère que son nom de famille, et son exclamation n'avait pas de but particulier. Elle souriait à Isabelle et se mit à la regarder des pieds à la tête. Son frère ne l'avait pas entendue. Il paraissait chercher quelque chose à dire à Isabelle. « Ne voulez-vous pas de thé ? » finit-il par demander. « Vous devez être très fatiguée. » « Oh non, pourquoi serais-je fatiguée ?» Isabelle se rendait compte que mieux valait se montrer très sincère et ne rien affecter. Il planait dans l'air quelque chose. Elle ressentait une impression obscure et indéfinissable qui la mettait absolument hors d'état de se faire valoir. La scène, les circonstances, la rencontre des personnages prenaient une signification plus profonde qu'elle ne l'eût imaginée. Elle voulait tâcher de comprendre et ne pas seulement proférer d'aimables banalités, sans se douter que nombre de femmes auraient précisément dit des platitudes gracieuses pour dissimuler leur effort d'observation. Il faut avouer que son orgueil s'effarouchait un peu. Un homme dont elle avait entendu parler en des termes dignes d'intérêt l'avait invité, elle, jeune fille peu prodigue de ses faveurs, à venir chez lui. Maintenant qu'elle s'était rendue à ce désir, le poids de l'entretien incombait naturellement au maître du logis. Isabelle ne laissait pourtant pas distraire son attention et ne semblait pas adoucie pour le moment par la constatation que M. Osmonde s'acquittait de sa tâche avec moins de complaisance qu'on eût pu s'y attendre. « Quelle niaise j'ai été de m'être aussi stupidement laissé prendre » croyait-elle l'entendre s'écrier en lui-même. « Vous serez fatigué avant de rentrer s'il vous montre ses bibelots et vous fait une conférence sur chacun d'eux » railla la comtesse Gemini. « Je n'en ai pas peur et si je suis fatiguée, j'aurais du moins appris quelque chose. » « Bien peu, je le crains. » Mais ma sœur s'épouvante à l'idée d'apprendre quoi que ce soit, dit M. Osmonde. Oh, je ne m'en cache pas. Je n'ai plus envie d'apprendre. J'en sais déjà trop long. Plus on sait de choses, plus on est malheureux. Il ne faut pas médire du savoir devant penser qui n'a pas encore fini son éducation, intervint Madame Merle avec un sourire. Penser ne soupçonnera jamais le mal. Penser est une petite fleur de couvent, dit M. Osmonde. Oh, les couvents, s'écria la comtesse en agitant ses manches. Parlez-moi des couvents, on y apprend tout. « Moi aussi je suis une fleur de couvent. Je ne me crois pas bonne, mais les religieuses le croient pour moi. Voyez-vous ce que je veux dire ?» demanda-t-elle en s'adressant à Isabelle. Isabelle n'en était pas bien sûre et répondit qu'elle suivait mal les discussions. La comtesse déclara qu'il en était de même pour elle, tandis que son frère adorait discuter. « Pour moi, conclut-elle, on aime une chose ou on ne l'aime pas. On ne peut évidemment pas aimer tout. Il n'y a pas à raisonner ses goûts. » On ne sait jamais où cela peut conduire. Il y a de très bons sentiments qui peuvent avoir de mauvaises causes, comme de bonnes causes peuvent donner naissance à de mauvais sentiments. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne m'inquiète pas des causes, et c'est seulement ce que j'aime. C'est évidemment le principal, acquiesça Isabelle avec un sourire, et non sans soupçonner que ses relations avec cette mobile créature ne seraient pas une source de repos intellectuel. Si la comtesse redoutait la discussion, Isabelle ne s'y ressentait guère portée non plus pour l'instant, et elle tendit la main à penser avec l'agréable conviction qu'un geste de ce genre n'impliquait de sa part aucun aveu qui pût faire conclure à une divergence d'opinion. Gilbert Osmonde, qui semblait n'attendre rien de bon du ton de sa sœur, détourna la conversation. Il vint s'asseoir à côté de sa fille, qui caressait timidement du bout des doigts la main d'Isabelle, puis finit par la tirer entre ses genoux et passer un bras autour de son petit corps. L'enfant fixait les yeux sur Isabelle avec un regard distrait, qui semblait vide d'intention, sinon insensible à l'attrait de la jeune fille. Monsieur Osmonde effleura plusieurs projets. Madame Merle avait dit qu'il savait être séduisant quand il le voulait, et maintenant, après une brève hésitation, il semblait bien décidé à se montrer tel. Madame Merle et la comtesse Gemini causaient un peu à l'écart de la façon dégagée de personnes qui se connaissent assez pour prendre leurs aises, et de temps à autre Isabelle entendait la comtesse, en réponse à quelque observation, pataugeait dans la lucidité de son interlocutrice comme un caniche se jette à l'eau pour chercher un bâton qu'on vient d'y jeter. On eût dit que Madame Merle se demandait jusqu'où elle pourrait aller. M. Osmonde parlait de Florence, de l'Italie, du plaisir d'habiter ce pays et des bornes à ce plaisir. Ils comportaient des avantages et des inconvénients, et ceux-ci étaient nombreux, bien que les étrangers fussent trop portés à ne voir de cette terre bénie que le côté romanesque. Elle apportait un apaisement à l'insuffisance humaine ou sociale, et par ce mot, M. Haussmann entendait celle des gens qui ne savaient pas tirer parti de leur sensibilité. En Italie, ils pouvaient sans ridicule la garder par devers eux malgré leur pauvreté, comme on garderait un héritage ou un domaine lourdement hypothéqué qui ne rapporterait rien. Il y avait bien des avantages à vivre dans le pays qui renfermait la plus grande somme de beauté. Il était des impressions que l'on ne pouvait concevoir que là. D'autres, favorables à la vie, ne s'y formaient jamais, et il en survenait parfois de très fâcheuses. Mais de temps en temps, on en découvrait une qui récompensait de tous les déboires. L'Italie avait tout de même gâté pas mal de gens. Lui-même était assez vain pour s'imaginer parfois qu'il aurait pu parvenir à de meilleures fins en y demeurant moins longtemps. L'Italie favorisait l'indolence, le dilettantisme et les personnalités de second plan. Elle ne disciplinait pas les caractères ou, en d'autres termes, ne développait pas chez les individus cet appétit du succès social et cette vigueur morale qui régnait à Paris et à Londres. « Nous sommes d'aimables provinciaux, » disait M. Haussmann, « et je me rends compte que je suis rouillé comme une clé de serrure. Cela me polie un peu de causer avec vous, bien que je ne me risque pas à prétendre ouvrir cette serrure très compliquée que je pressens dans votre esprit. Mais vous allez repartir avant que je vous aie vu trois fois, et peut-être ne nous rencontrerons-nous plus jamais. Voilà ce que c'est de vivre dans un pays qui attire les gens. Quand ils sont déplaisants, c'est déjà terrible, et quand ils sont aimables, c'est bien pire encore. À peine s'attache-t-on à eux qu'ils s'en vont. » J'y ai été trop souvent pris. J'ai renoncé à nouer des liens d'amitié, à céder à des attirances. Vous voulez rester ici, vous y installer? Voilà qui serait charmant. En effet, votre tante offre une sorte de garantie, et l'on peut compter sur elle. Oh, c'est une vieille Florentine, littéralement, et non pas une de ces profanes modernes que l'on rencontre partout. C'est une contemporaine des Médicis. Elle a dû assister au supplice de Savonarole, et je n'affirmerai pas qu'elle n'ait pas jeté une poignée de copeaux sur son bûcher. Son visage fait penser à certains tableaux primitifs, à ces petits visages secs et nets qui devraient avoir une expression intense et presque toujours pareille. Je pourrais vous montrer son portrait dans une fresque de Ghirlandaio. J'espère ne pas vous offusquer en parlant ainsi de votre tante. Je ne le crois pas d'ailleurs, ce qui peut vous paraître encore plus impertinent. Je vous assure bien que je ne manque pas de respect à son égard plus qu'au vôtre. Vous savez que je suis grand admirateur de Mrs. Touchett. » Tandis que l'hôte d'Isabelle s'adressait à elle de cette façon quelque peu familière, la jeune fille regardait de temps en temps Madame Merle et ne lisait cette fois sur le visage où se jouait un sourire distrait aucun encouragement intempestif de nature à lui faire croire qu'elle se montrait à son avantage. Madame Merle invita la comtesse Gemini à passer au jardin, et la comtesse, se levant et ébouriffant ses plumes, se dirigea vers la porte. « Pauvre Miss Archer !» s'écria-t-elle, en considérant la jeune fille avec une compassion expressive. « On l'a convoquée à une réunion de famille. »« Miss Archer ne saurait éprouver que de la sympathie pour une famille dont tu fais partie, » rétorqua Monsieur Haussmann, avec un rire où, sous la fine ironie, perçait un accent de patience résignée. « Je ne sais pas ce que tu veux faire croire. Je suis persuadée qu'elle ne découvrira chez moi d'autre mal que ce que tu lui en diras. » « Je vaux mieux qu'il ne le prétend, Miss Archer, » poursuivit la comtesse. « Je suis seulement un peu bête et assez ennuyeuse. Est-ce tout ce qu'il a dit ?»« Ah, alors, il faut croire que vous le mettez en belle humeur. S'est-il lancé dans un de ses sujets favoris ? Je vous avertis qu'il y a deux ou trois dadas qu'il traite à fond. Quand il les entreprendra, vous ferez mieux d'enlever votre chapeau. » « Je ne connais pas encore les sujets favoris de M. Haussmann, » dit Isabelle, qui s'était levée. La comtesse prit un air de méditation profonde et pressa contre son front une main aux doigts pressés. « Je vais vous dire les principaux. Machiavel, Vittoria Colonna, Métastase. » « Avec moi, » interrompit Madame Merle en passant la main sous le bras de la comtesse Gemini, comme pour la pousser vers le jardin. « Monsieur Haussmann n'a pas de préoccupation aussi historique. » « Oh, vous, » répondit la comtesse en s'éloignant, « vous êtes Machiavel en personne et Vittoria Colonna. » « Elle va vous dire que la pauvre Madame Merle est aussi Métastase, » fit Gilbert Haussmann avec un soupir résigné. Isabelle s'était levée en pensant qu'ils allaient passer au jardin, mais Haussmann ne semblait pas disposé à quitter la pièce. Il gardait les mains dans les poches de sa veste, et sa fille, qui avait noué un bras à l'un des siens, se cramponnait à lui et laissait ses yeux errer de son visage à celui d'Isabelle. La jeune fille attendait et trouvait une obscure satisfaction à se laisser diriger. Elle goûtait la conversation et la société de M. Haussmann. Elle sentait, avec le plaisir secret que lui causait toujours cet espoir, qu'elle était en voie de nouer une amitié nouvelle. Par la porte ouverte de la vaste pièce, elle vit Madame Merle et la comtesse se promener sur la belle pelouse du jardin. Puis elle se tourna et considéra tout ce qui était éparpillé autour d'elle. Il était convenu que Monsieur Osmond devait faire l'honneur de ses trésors. Tableaux, coffrets, tout paraissait trésor chez lui. Isabelle s'approchait de l'un des tableaux pour le mieux regarder, lorsque la voix d'Osmond s'éleva brusquement. « Miss Archer, que pensez-vous de ma sœur ?» Elle se tourna vers lui avec quelque surprise. « Ne me demandez pas cela, je l'ai trop peu vue. » « Oui, vous l'avez très peu vue, mais cela a dû vous suffire pour comprendre le peu qu'il y a à voir en elle. Que pensez-vous de notre air de famille ?» poursuivit-il avec son calme sourire. « J'aimerais savoir l'effet qu'il fait sur un esprit neuf et non prévenu. Je sais ce que vous allez dire, vous n'avez guère eu le temps de vous faire une opinion. Évidemment, ce n'est qu'un aperçu qu'on vous en a donné. Mais accordez-lui un peu d'attention à l'avenir, si vous en avez l'occasion. J'ai quelquefois peur que nous nous soyons engagés sur un mauvais chemin, à force de vivre ici parmi des êtres et des choses qui ne sont pas à nous, sans responsabilité et sans tracas, sans rien pour nous relier ou nous soutenir, à force d'épouser des étrangers, de nous faire des goûts artificiels, de tricher avec notre mission naturelle. Laissez-moi ajouter d'ailleurs que tout cela s'adresse à ma personne bien plus qu'à celle de ma sœur. C'est une femme très honnête, bien plus honnête qu'elle ne le paraît. Elle est assez malheureuse, et comme elle n'a pas de disposition au sérieux, elle n'aime pas prendre un ton tragique. Elle montre sa tristesse de façon plutôt ridicule. Elle a un affreux mari, dont elle ne sait peut-être pas tirer tout le parti possible. Et un affreux mari est chose bien gênante. Madame Merle lui prodigue d'excellents conseils, mais c'est un peu comme si elle donnait un dictionnaire à un enfant pour apprendre une langue. Il cherche bien les mots et ne sait pas les mettre ensemble. Ma sœur demande une grammaire, mais n'a par malheur rien de grammatical. Excusez-moi de vous importuner de tous ces détails. Ma sœur a eu raison de dire qu'on vous adoptait dans la famille. Laissez-moi décrocher cette toile qui demande à être vue au jour. » Il dépendit le tableau, le porta près de la fenêtre, fournit à son propos quelques curieuses précisions. Isabelle regardait les autres œuvres d'art et il lui donnait les éclaircissements les plus intéressants pour une jeune fille en visite. Peintures, médaillons et tapisseries, tous ces objets étaient dignes d'intérêt, mais Isabelle s'aperçut vite que leur possesseur l'était bien plus encore, et indépendamment d'eux, malgré la façon dont il semblait se confondre avec son entourage. Il ne ressemblait à aucun des hommes qu'elle eût encore rencontrés, qui pour la plupart se divisaient en groupes d'une demi-douzaine d'individus. Il n'y avait à ce fait qu'une ou deux exceptions. Elle n'entrevoyait, par exemple, aucun groupe où ranger sa tante Lydie. Il y avait d'autres originaux, originaux par courtoisie pour ainsi dire, tels que Mr. Goodwood, le cousin Ralph, Henriette Stackpole, Lord Warburton ou Madame Merle. Mais en définitive, quand on les regardait de près, ces individus appartenaient à des types déjà connus. Quant à Monsieur Osmond, on aurait su lui assigner de classe naturelle. C'était un échantillon à part. Isabelle ne s'était pas avisée sur l'heure de ces évidences, mais les sentait peu à peu se faire jour en elle. Pour le moment, elle se contentait de songer que cette nouvelle connaissance allait peut-être prendre la première place dans son esprit. Madame Merle rendait aussi un son de qualité rare, mais quelle puissance supérieure acquérait ce son dans une poitrine d'homme. Ce n'était pas tant ses paroles et ses gestes que ses réticences qui lui donnaient aux yeux d'Isabelle une marque supérieure de même espèce que celle qui lui faisait admirer au dos des vieilles assiettes et au coin des dessins du XVIe siècle. Il ne se permettait aucun manquement frappant aux usages. Il se montrait original, sans excentricité. Elle n'avait jamais rencontré un individu de grain si fin. On était frappé d'abord de ses particularités physiques, avant d'entrer dans le domaine immatériel. Ses cheveux abondants et légers, ses traits nets et affinés, son teint clair, riche, sans vulgarité, la parfaite égalité de sa barbe et cette uniforme sveltesse qui prêtait au mouvement d'un seul de ses doigts l'ampleur d'un geste expressif, tous ces traits personnels frappaient notre sensible héroïne comme des signes de qualité, d'intensité et comme autant de promesses d'intérêt. Il avait certainement l'esprit exigeant et porté à la critique. Il était probablement irritable. Il se laissait diriger, de façon trop exclusive peut-être, par sa sensibilité. Elle le rendait trop impatient des incidents vulgaires et l'avait amené à vivre par lui-même, dans un monde choisi, assorti, artificiel, où tout n'était qu'art, beauté et histoire. En tout, il consultait son goût, et rien que son goût sans doute, comme le malade qui se sait incurable finit par ne plus consulter que son notaire. C'est cela qui le différenciait tant de tous ses semblables. Ralph offrait quelque chose d'approchant et partageait jusqu'à certains points cette façon de prendre la vie en connaisseur. Mais chez Ralph, cette attitude était une anomalie, une sorte d'excroissance ironique, tandis que chez Osmond, c'était la dominante qui commandait l'harmonie de toute sa personne. Isabelle était certainement loin de le comprendre tout à fait, et le sens de ses paroles ne lui apparaissait pas toujours clairement. Il était difficile, par exemple, de saisir ce qu'il entendait par ce côté provincial qu'il s'attribuait quand il en était si manifestement dépourvu. Était-ce un innocent paradoxe, destiné à intriguer Isabelle, ou le raffinement suprême d'une haute culture ? Elle espérait l'apprendre un jour, et ne pouvait manquer d'en être intéressée. Si pareille harmonie était une qualité provinciale, que pouvait être alors l'achèvement de la capitale ? Elle se posait la question, en dépit de la réserve qu'elle sentait chez son hôte. Une telle circonspection, fille de nerfs trop sensibles et de perceptions aiguisées, allait parfaitement de pair avec l'éducation la plus parfaite. Mieux, c'était presque une preuve de loi et d'idéal supérieur à ceux du vulgaire, le vulgaire sur lequel il était assuré de faciles victoires. Osmond n'était pas de ces hommes qui bavardent avec la facilité des natures superficielles. Sa critique s'adressait à lui-même autant qu'aux autres, et, exigeant beaucoup des autres pour leur accorder un brevet de commerce agréable, se faisait sans doute une opinion quelque peu ironique de ce qu'il offrait lui-même. C'était en somme une preuve de plus qu'il n'avait pas de vanité grossière. S'il ne s'était pas dès l'abord tenu sur la réserve, il n'aurait pu effectuer cette lente, subtile et parfaite conversion dont la perception enchantait Isabelle autant qu'elle la leurrait. S'il lui avait brusquement demandé ce qu'elle pensait de la comtesse Gemini, c'était évidemment la preuve qu'il s'intéressait à elle. Ce ne pouvait être par espoir de mieux connaître sa sœur. Cette marque d'intérêt dénotait un esprit curieux, et l'on eût pu s'étonner qu'à cette curiosité, il sacrifiât son sentiment fraternel. C'était le trait le plus excentrique dont il lui fait montre. Il y avait, à côté du salon de réception, deux autres pièces pleines d'objets remarquables, et Isabelle y passa un quart d'heure. Elle trouva tout infiniment curieux et précieux, et M. Osmond continua de se montrer le plus obligeant des cicérones, en lui désignant tour à tour ses plus belles pièces, sans cesser un instant de tenir la main de sa fille. Son amabilité surprenait notre jeune amie qui s'étonnait de lui voir prendre tant de peine pour elle, et finissait par éprouver une sorte de gêne d'une telle accumulation de beauté et de notions nouvelles. C'était assez pour une fois. Elle n'entendait plus ses explications, elle fixait toujours sur lui des yeux attentifs, sans plus penser à ce qu'il disait. Il devait l'avoir jugée plus vive, plus cultivée et mieux préparée à tout point de vue qu'elle ne l'était. Madame Merle avait exagéré les mérites de son amie, et c'était dommage, puisqu'en définitive, il découvrirait le véritable état des choses, et que tout l'esprit vrai de la jeune fille ne lui ferait pas surmonter son désappointement. Une partie de la fatigue d'Isabelle résultait de son effort pour se hausser au niveau que la description de Madame Merle avait dû donner d'elle. Et de la crainte, fort inhabituelle chez elle, de montrer non pas son ignorance, elle ne s'en préoccupait pas trop, mais la lenteur éventuelle de sa compréhension. Elle aurait été vexée de témoigner du goût pour un objet dont, avec sa culture supérieure, son hôte aurait jugé qu'elle ne devait pas l'admirer, ou d'en négliger un autre qu'un esprit vraiment initié ne pouvait laisser passer. Elle ne voulait pas tomber dans ce piège grossier où elle avait vu tant de femmes sombrer de façon lamentable. Aussi surveillait-elle ses paroles, apportait-elle une attention méticuleuse à ses appréciations ou à ses dédains, jamais elle ne s'était mieux tenue sur ses gardes. Ils repassèrent dans la première pièce où le thé était servi. S'apercevant que les deux femmes restaient sur la terrasse et qu'Isabelle n'avait pas encore admiré la vue, suprême attraction du lieu, M. Osmond la conduisit sans plus tarder au jardin. Madame Merle et la comtesse s'y étaient fait apporter des sièges, et la douceur de l'après-midi incita la comtesse à proposer de prendre le thé en plein air. Pensée fut donc dépêchée vers la servante pour la prier de faire ses préparatifs. Le soleil s'était abaissé, la lumière prenait une nuance d'or plus profond, et sur les montagnes et la plaine étalées à leurs pieds, les masses d'ombre pourpre conservaient un éclat aussi vigoureux que les lieux ensoleillés. La scène dégageait un charme extraordinaire. L'air gardait une immobilité presque solennelle, et la large expansion du paysage, avec ses cultures soignées et sa noblesse de ligne, sa vallée fertile et ses collines au profil délicat, et l'humanité toute particulière de ses habitations disséminées, se déployaient dans son harmonie splendide et sa grâce classique. « Vous avez l'air si enchanté que je crois pouvoir espérer vous voir revenir, » dit Osmond en conduisant la jeune fille à l'un des angles de la terrasse. Je reviendrai certainement, malgré le danger dont vous m'avez menacé de vivre en Italie. Qu'avez-vous donc dit à propos des missions naturelles ? Je me demande si ce serait manqué à la mienne que de m'installer à Florence. La mission naturelle d'une femme est de demeurer où l'on sait le mieux l'apprécier. Toute la question revient à découvrir cet endroit. C'est vrai, on prend souvent beaucoup de temps à la résoudre. Il faudrait asseoir bien nettement sa conviction. À moi, il me faudrait une indication très précise, dit Isabelle avec un sourire. Je suis bien heureux en tout cas que vous parliez de vous fixer quelque part. Madame Merle m'avait laissé entendre que vous étiez d'humeur assez vagabonde. Je croyais que vous vous proposiez de faire le tour du monde. J'ai un peu honte de mes projets, j'en fais un nouveau chaque matin. Je ne vois pas là de quoi faire honte, c'est le plus grand des plaisirs. Cela paraît assez frivole, dit Isabelle. Il faudrait fixer délibérément son choix et s'y montrer fidèle. À ce point de vue alors, je n'ai pas été frivole. Vous n'avez jamais fait de projet ? Si, j'en ai fait un, voici bien des années, et je m'y conforme encore. Il fallait qu'il fût bien séduisant, risqua Isabelle. Très simple, surtout. C'était d'être aussi tranquille que possible. Aussi tranquille ? S'étonna la jeune fille. De vivre sans soucis, sans débat et sans lutte, de me résigner, de me contenter de peu. Il prononçait lentement ces mots, avec des pauses brèves entre ses phrases, et son regard pénétrant se fixait sur celui d'Isabelle avec la gravité qui convient à un aveu profond. « Vous trouvez simple un pareil idéal ?» demanda-t-elle avec une ironie douce. « Oui, parce que c'est négatif. » « Alors votre vie a été négative ?»« Dites positive, si cela vous plaît, seulement elle a affirmé mon indifférence. » « Attention, ce n'est pas d'indifférence naturelle que je parle. Je n'étais pas indifférent tout d'abord. C'est de ma renonciation étudiée et volontaire. » Elle ne le comprenait pas très bien et se fut volontiers demandé s'il ne se moquait pas d'elle. Comment un homme apparemment doué d'une profonde puissance de réserve pouvait-il tout à coup se montrer si confiant ? C'était son affaire d'ailleurs, et ses confidences ne manquaient pas d'intérêt. « Je ne vois pas ce qui vous a contraint à cette renonciation, dit-elle. C'était l'impossibilité de rien faire. » J'étais sans avenir, sans argent et sans génie, je n'avais pas même de talent, et j'avais su de bonne heure prendre ma mesure. Je me contentais d'être le plus difficile des hommes. Il y avait au monde deux ou trois de mes contemporains que j'enviais, l'empereur de Russie, par exemple, et le sultan de Turquie. Il y avait même des moments où j'enviais le pape, au nom de la considération dont il jouit. J'aurais été ravie de me voir considérée comme lui, mais, faute de pouvoir être un de ces hommes, je ne désirais rien, et me résolus à ne pas briguer les honneurs. Le plus mince des gentlemen peut toujours se considérer lui-même, et heureusement mon peu d'importance ne m'empêchait pas d'être un gentleman. Je ne pouvais rien faire en Italie, pas même un patriote italien. Il m'aurait fallu pour cela sortir du pays, et j'en étais trop épris pour le quitter, sans compter que je l'aimais trop sous sa forme ancienne pour y souhaiter aucun changement. Alors j'ai passé ici nombre d'années sur le mode paisible dont je viens de vous parler. Je n'ai pas été du tout malheureux, je ne veux pas dire que je ne me sois soucié de rien, mais les choses que j'ai désirées étaient définies, limitées. Les événements de ma vie sont restés totalement inaperçus de tout autre que de moi-même. Ils ont consisté à acheter pour une bouchée de pain un vieux crucifix d'argent. Je n'ai jamais rien payé cher, vous le comprenez bien. Ou à dénicher, comme cela m'est arrivé un jour, un dessin du Corrège sur un panneau repeint par quelque imbécile en mal d'inspiration. Ce tableau d'une existence aurait pu paraître un peu sec à Isabelle, si elle y avait cru de façon implicite, mais son imagination y ajoutait l'élément humain dont elle était sûre qu'il n'avait pas manqué. La vie d'Osmonde s'était, plus intimement qu'il ne voulait l'admettre, mêlée à d'autres vies, sans qu'elle pût évidemment lui demander des détails à ce sujet. Elle s'abstint d'ailleurs de le pousser à d'autres confidences. Laisser entendre qu'il n'avait pas tout dit eût été une marque de familiarité et un manque de respect, voire une preuve de vulgarité, qu'elle ne voulait pas donner. Il en avait certainement avoué bien assez long. Pourtant, elle se sentit poussée à exprimer une sympathie timide pour la façon dont il avait su protéger son indépendance. « C'est une belle vie, dit-elle, que de renoncer à tout sauf au Corrège. Oh, j'ai su en faire une bonne chose à ma façon. Ne croyez pas que je me plaigne. Quand on n'est pas heureux, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. » C'était là un sujet très vaste, et Isabelle préféra revenir à des horizons plus restreints. « Vous avez toujours habité Florence ? » demanda-t-elle. « Non, pas toujours. J'ai longtemps vécu à Naples, et pas mal d'années à Rome, mais voilà longtemps que je suis ici. Peut-être faudra-t-il que j'en parte un jour, pour faire quelque chose d'autre. Il ne m'est plus permis de ne songer qu'à moi seule. Ma fille grandit et pourrait fort bien ne pas se passionner autant que moi pour les corrèges et les crucifix. Il faudra que je fasse ce qui lui conviendra le mieux. « Oh, n'y manquez pas !» s'écria Isabelle. « C'est une petite fille si charmante !»« Oui !» s'écria Gilbert Osmond avec emphase. « C'est une petite sainte du ciel. C'est la grande douceur de ma vie. »